Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau générique, mais c'est toujours Mondial Sport. Bienvenue, les plus grands exploits aux quatre coins du globe, chaque week-end sur RFI. La France s'apprête à entamer sa semaine olympique et paralympique. Du calme, c'est un peu pompeux dit comme ça. Il ne s'agit que d'un événement institutionnel, tourné vers les jeunes, l'éducation, l'école, la sensibilisation à la pratique du sport. On est loin des grands champions et des paillettes. Mais c'est un point de départ pour un débat qui, je vous l'annonce de suite, désolé, ne sera pas définitivement tranché d'ici les 40 prochaines minutes. La France est-elle un pays de sport? C'est la question. Le pays hôte des prochains Jeux Olympiques est-il un pays de sport? Le pays de l'homme qui a réinventé les JO, après tout, est-il un pays de sport? Le pays de Mbappé, Zidane, Tony Parker, Yannick Noah, Marie-Jo Pérec, Karabatic, j'en passais des meilleurs, est-il un pays de sport? Le pays de Tony Estanguet? Ah non, pas lui. Le pays de Teddy Riner? Sauf que Teddy Riner, lui, il dit que non. La légende du judo a dit que non. Même chose pour un autre champion, le nageur Florent Manaudou. Si les meilleurs le disent, c'est que c'est vrai, non? Le débat est ouvert aujourd'hui dans Mondial Sport.
On n'est pas du tout un pays de sport. Enfin, il faut...
Pourquoi vous dites ça? Vous dites souvent ça. Pourquoi vous dites ça?
Ah, je ne suis pas d'accord. Pas.
Moi non plus.
Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un Français. Le plus grand basketteur du monde, c'est un Français.
On a des très bons talents. Mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a...
Dès
l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la
ils ont réduit de 4 à, ils ont réduit de 4 ça, à 2 les heures de cours de PS. On ne peut pas dire, bah, voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça.
Il a mis les deux plats dans le pied. Il s'est fait attaquer, mais en fait, parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, la France n'est pas un pays de sport.
Mais
je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu cet entrain, on voit des personnes qui font du sport. Allez au Brésil, matin, midi, soir, à n'importe quelle heure, ils courent, ils font du sport.
Ouais.
C'est, le sport, c'est vital. Nous, on commence à comprendre. Je ne suis pas en train de taper sur la France à dire on est bidon. Non. Mais le sport, ce n'est pas dans notre culture. Mais on n'arrive même pas à mettre sur un beau socle les sportifs, les champions.
Mais un garçon comme vous, avec la voix qu'il porte, vous ne pouvez pas intervenir un peu plus auprès des hautes instances pour que, notamment à l'éducation nationale, par exemple, pour qu'il y ait un peu plus de sport à l'école?
Bah, tous les jours, on en parle. Tous les jours. Après, vous savez très bien la politique en France, comment elle est. Heureusement que je vais... Elle est où la caméra? Heureusement que je serai aux prochaines élections.
Alors, j'ai tenté de résumer, on est tous un peu émus après cette séquence, Florent Manaudou en novembre dernier. Et Teddy Riner, qui plus soit, fin février, tout ça au même endroit sur France 2, première chaîne publique en France. L'émission, elle s'appelle Quelle époque? Elle est présentée par Léa Salamé, les autres intervenants. Et c'est là qu'on se mouille la nuque. Kev Adams, un humoriste qui réagit au propos de Manaudou, et Christophe Dechavannes, qui est le co-présentateur de l'émission, qui relance... Teddy Riner qui parle éventuellement d'une carrière politique. Tout ça, c'est assez vertigineux. Teddy Riner, on va quand même lui redonner un petit peu de crédibilité. C'est l'un des judokas les plus talentueux de l'histoire. Florent Manaudou, c'est 4 médailles olympiques dans les bassins, dont une en or à Londres en 2012. Je préfère tout de même mon casting du jour. Bonjour Jean-Paul Khaled.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du sport, ancien chercheur, ancien universitaire au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Bonjour Alexandre Jaffari.
Bonjour.
Alors vous êtes un acteur de terrain, un coach sportif professionnel, entraîneur de handball bénévole, à vos heures pas perdues du coup, même plutôt productive. Vous êtes un peu l'amateur éclairé, on va dire, de ce plateau. Vous êtes aussi une plume critique sur les réseaux sociaux. Et ce sont justement vos réactions indignées aux prises de parole de Manaudou et Riner sur... l'ancien Twitter, qu'on appelle X désormais, qui ont attiré mon attention. Et vous êtes un petit peu l'auteur de l'idée originale de cette émission. Merci à vous. Et puis Karim Baldé. Bonjour Karim.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et puis un bonjour tout particulier aux élèves de 4e E du Collège Jules Michelet à Creil qui nous écoutent.
Est-ce qu'ils font suffisamment de sport? On aurait pu leur poser la question.
Parfois
je
leur pose la question, pas assez.
Vous êtes le consultant en habitué de l'équipe de Mondial Sport. La France est-elle un pays de sport? De quoi parle-t-on? De quel sport? Il est question d'infrastructure, d'école, de comparaison avec d'autres pays, de fréquence de la pratique, de valorisation des athlètes de haut niveau. Ça, tout ça, c'était dans les extraits qu'on a entendus. On va tenter de mettre un peu d'ordre en introduction. Une question, quand les types qui ont plusieurs médailles olympiques parlent, est-ce que ceux qui n'en ont aucune, comme nous, les écoutent? Alexandre Jaffari, pour paraphraser Michel Audiard, vous êtes plutôt d'avis que non, c'est pas forcément à Manaudou et à Riner de s'exprimer sur la question?
En fait, ça dépend ce que c'est ta question, c'est est-ce qu'on les écoute? Je pense que oui, que vu que
les sportifs de haut niveau ont une grande importance dans notre société et du coup une grande parole. Après, est-ce qu'on devrait les écouter? Là, je pense pas.
C'est autre chose. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est... Ils ne sont pas la règle, ils sont justement l'exception qui ne confirme pas la règle ou qui confirme la règle.
En fait, c'est des survivants. Ils sont arrivés là par hasard, par chance, parce qu'il n'y a pas de méritocratie. Et dans le sport, c'est encore plus vrai. Et du coup, ça, il faut en avoir confiance. Et par exemple, on ne va jamais écouter le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, alors que c'est des brutes aussi en termes de performance. Et c'est que le champion ou la championne qu'on va toujours écouter. Et ça, du coup, c'est un biais auquel il faut faire très attention.
Karim Baldé, vous étiez plutôt du genre, je trahis le secret, à dire, bah si, il faut écouter les gens qui sont arrivés au sommet de leur discipline.
Oui, effectivement, parce que justement, ils ont survécu à un système qui peut être déficient par certains égards. Le problème, je réponds peut-être à ce que vous dites par une question, c'est qui doit parler alors du coup? Parce que ces champions-là, au moins, ils ont une aura médiatique. Eux, ils passent à la télévision publique française, on a entendu les extraits sur France 2. Eux, au moins, ils peuvent soulever des débats dans la société, ce qui n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Donc si eux ne font pas cet effort-là, je prends aussi l'exemple de Stéphane Diagana, après les championnats du monde d'athlétisme, qui a clairement décrié un manque criant de sport dans les écoles. Donc si eux ne le font pas, qui le fera? C'est ça le problème. Est-ce que ce sont les professeurs de PS? Est-ce que ce sont des champions de moins grande envergure? La réponse est non. Donc, même si, bien sûr, qu'eux, ils sont tout en haut de la pyramide, au moins le fait qu'ils parlent, ça peut ouvrir des débats. Et la preuve, on est là ici aujourd'hui.
Et les chercheurs, Jean-Paul Khaled, donc les scientifiques, ceux qui ont une méthode, hein, qui ne parlent pas à l'emporte-pièce, loin de là, écoutent-ils les discours des très grands champions? Et est-ce que vous prenez au sérieux ce qui a été dit, voilà, dans une émission de divertissement par Florent Manodou et Teddy Riner?
C'est-à-dire que le travail du sociologue, à mon avis, c'est d'abord de raisonner en termes de population générale, vous voyez, de manière à avoir finalement une vue d'ensemble sur ce que peut être la pratique d'activité physique et sportive au sein d'une société, par exemple la société française. Et évidemment, on peut zoomer sur tel ou tel aspect, c'est-à-dire peut-être le sport de très haut niveau, dont Manodou et Riner sont en fait les d'illustres représentants, mais évidemment, ils n'expriment jamais qu'un point de vue sur la chose, et je crois que pour ramener un peu vers une vue plus objective, il vaut mieux raisonner en termes de population générale, disons.
Et ben moi, je vais revenir à la base de cette population générale, Jean-Paul Khaled. Je vais suivre le sociologue que vous êtes. Je vais revenir vraiment tout en bas de l'échelle de la vie, si je puis dire. Alors, je vais adopter le point de vue d'un enfant qui découvre la pratique du sport, la pratique associative du sport, puisque je me suis rendu hier matin à un entraînement de futsal, donc le foot en salle, pour les tout petits, 3-4 ans. À Saint-Ouen, c'est là que j'habite, hein, en toute transparence, c'est à deux pas de Paris et à deux pas du futur village olympique. C'est l'une des villes hautes même du futur village olympique. La Saint-Ouen Futsal Academy, juste à côté du Stade Bauer, du Red Star, coucou Habib Bey, m'a ouvert ses portes.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bien et vous?
Bonjour, vous allez bien?
Tu sais, le frère d'Axel s'appelle Kylian.
Bah, parfois on l'appelle Kylian Mbappé.
Tu peux me déranger la veste?
On peut faire ses chauffements vite.
Alors les enfants, ça va?
Oui, on va.
Les enfants, on va s'échauffer.
Allez, prends chacun un ballon vite, allez.
Ça y est les enfants, on reste concentrés, on est rentrés dans l'entraînement, d'accord?
Ok.
Et on part en conduite de balle, ok? À mon top, c'est parti, top!
Alors je me présente, je m'appelle Alpha Dramé et ça va faire maintenant 6 ans que je suis responsable de l'académie. Là c'est la catégorie baby futsal, 3 et 4 ans. L'objectif il est clair, c'est pas d'en faire voilà, des grands footballeurs, mais de pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent découvrir la discipline en question du futsal, mais également prendre du plaisir autour du jeu. Ils sont pas mal sur des jeux d'éveil, parce qu'à travers l'éveil, ils vont comprendre beaucoup plus vite. La particularité, ce qui est bien, c'est qu'à travers le sport, on développe certaines qualités, notamment le respect des consignes, le respect des règles. Quand on vient en séance d'entraînement, on dit bonjour au coach, on dit au revoir, pour qu'à un moment donné, ces règles-là puissent être transférables dans le monde de tous les jours. Mais à cet âge-là, ils sont beaucoup égocentriques, parce qu'ils pensent à eux, et au fur et à mesure du temps, ils comprennent vraiment que c'est vraiment un sport collectif. On n'est pas dans l'élitisme. Pas de pression de résultat haute. Dans un premier temps, c'est un club qui est vraiment familial.
Alors moi, je m'appelle Hichem Chalal, j'ai 21 ans.
Pour vous dire, en tant que bénévole, quand on vient ici, on kiffe, quoi. Il n'y a pas mieux que ça. On se lève le matin et on les fait apprécier leur moment. Et voilà, quoi. Il n'y a pas mieux. Les babies, c'est une catégorie un peu spéciale. Parce qu'on est plus dans les jeux sportifs, les valeurs, le respect. Des fois, c'est un peu difficile, mais il faut être patient. Ça, c'est le rôle d'un éducateur. Franchement, les enfants, ils écoutent beaucoup. Pour vous dire, il y a un bon niveau quand même. Même si on ne parle pas de niveau à leur âge, ça va. Franchement, c'est très, très cool. Il faut toujours rester professionnel, mais aussi être cool avec eux. Parce que si t'es pas cool avec eux, ils seront crispés, quoi. Et s'ils seront crispés, ils voudront pas jouer. On vient ici, mais on sait très bien que pour les babies, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'esprit de compétition. On va dire le compétiteur, il vient avec le comportement de la personne. Même si t'as du talent et il n'y a pas le plan comportement qui suit, ça va pas être possible. Plus t'as un bon comportement, t'es sérieux, t'es ponctuel, tu tiens tes engagements, plus tu vas progresser et tu vas devenir... On va dire un bon sportif, quoi. C'est bien, les enfants. On peut s'applaudir. Voilà. C'est bien, les enfants. Faut continuer comme ça. D'accord ?
Alexandre Jaffari, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes un acteur de terrain, un bénévole aussi, vous coachez en handball. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage ? Vous reconnaissez dans le discours des éducateurs qu'on vient d'entendre ?
En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, à un moment, il dit il n'y a pas de pression. Mais de l'autre côté, il dit il faut que qu'on acquiert des compétences transférables dans la société. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu où ça doit être productif. Ce n'est pas juste un moment où on vient taper le ballon et on joue avec les potes.
Et ça vous intéresse ou c'est quelque chose contre lequel vous voudriez...
Je trouve ça intéressant qu'on le note. Après, aussi, il parle de valeurs. Les valeurs, c'est des trucs un peu flous. On ne sait jamais. Les valeurs, on peut mettre plein de choses derrière. Et justement, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les sportifs de niveau, ils ne connaissent pas ça. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas été bénévoles, ils ont eu des parcours extrêmement fléchés. Et par exemple, quand on voit Tony Estanguet qui dit « Ah oui, sans nous, sans les volontaires, il n'y a pas de sport », qu'est-ce qu'il en sait ? C'est juste, lui, il a toujours profité des thunes, des fédérations, il a toujours profité de l'organisation globale, parce qu'il y a une masse, comme ces personnes-là qui viennent de parler au micro, qui travaillent gratuitement depuis 20, 30 ans, 50 ans.
Jean-Paul Khaled, est-ce que ça fait un peu écho, alors dans un langage peut-être plus direct à ce que vous disiez, c'est-à-dire que voilà, il y a l'écume du très haut niveau du compétiteur, et puis on oublie ce qui se passe à la base, c'est-à-dire des gens qui prennent des enfants et qui leur inculquent le sport, on va dire les gestes essentiels, les premiers gestes du sport.
Oui, bien sûr, et je crois que là on a une bonne illustration de ce que peut être l'initiative associative. Moi, il me semble que c'est en fait ce type d'organisation qui permet à des enfants en très jeune âge de découvrir ce qu'un des éducateurs a appelé un jeu d'éveil, hein, et puis des valeurs autour de ce jeu, à commencer par le respect d'autrui, de la règle et peut-être de l'adversaire. Et il me semble que la deuxième personne interrogée aussi s'est présentée comme un bénévole, et je crois que ce sont quand même des points importants, hein, de ce qu'est le socle ou un des socles majeurs de ce qu'est la réalité du sport en France. Hein.
Et vous, en tant que sociologue, est-ce que vous estimez que ces clubs associatifs, ces bénévoles, ces infrastructures qui permettent donc le sport de tous les jours, pour tout à chacun, est-ce que c'est suffisant en France ? Est-ce qu'il en existe suffisamment des clubs avec en plus une philosophie relativement saine, comme celle qu'on vient d'entendre ?
Ben je pense que, disons, les collectivités locales, hein, les municipalités, aident, me semble-t-il, à l'accompagnement de ces initiatives associatives. Alors en France, elles sont très nombreuses, hein, parce que nous avons à peu près 160 000 associations sportives, type club. C'est beaucoup plus à proportion que dans des pays comme l'Allemagne, vous voyez, où les clubs sont plutôt des clubs qui accueillent en fait une population plus importante, vous voyez, avec un ensemble de services offerts à la population, pas forcément, disons, la pratique compétitive qui intéresse plutôt les jeunes garçons et filles. Hein, et à côté de ces initiatives qu'on peut qualifier de liées à la vie de la collectivités locales, il y a aussi tout ce qui est l'UCEP, c'est-à-dire l'activité de découverte physique et sportive dans l'enseignement primaire, et puis l'UNSS, c'est-à-dire le sport scolaire. Ça, ce sont en fait des points importants, hein, même si le sport scolaire est un petit peu malmené actuellement par manque de moyens.
Je crois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec vous autour de cette table. Justement, c'est la prochaine étape de notre discussion et c'est comme l'entraînement. Il y a plusieurs étapes pour progresser. Karim Badet, vous avez la parole dans quelques instants. Juste avant, Aya Nakamura. Bon, c'est pas mal.
Oui.
De succéder à Aya Nakamura.
Surtout quand on parle des Jeux Olympiques.
Sur RFI, exactement. En plus, c'est de circonstances hypées que nous sommes par Aya Nakamura.
Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échappe. Tu me dis que je fais le seul. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais.
Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10.
Je suis hyper, 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 hyper. Les en l'ombre, ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises.
Moi je voulais nous deux, mais tu vis pour les caméras. Tout ce cinéma, c'était pour les caméras. Je voulais laver, 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 etc. Et dans toutes les bouches, j'ai entendu le commérage. Je sais que j'étais. Toi, tu te doutes de quoi, je sais que j'étais. Et pour les boucs comme toi, fini sentiment, fini tout ça. Les gars, je me suis mise en bombe en pétard. Mais du coup, le bouc est fâché. J'étais dedans, moi j'ai lâché. Moi j'ai lâché tout ça. Je suis pire. Hyper, 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 hyper. Les en l'ombre, ça y est. Puis hyper, hyper, hyper.
Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Bêtises, des bêtises. Faisait trop les bêtises.
Aya Nakamura, hypé dans Mondial Sport sur RFI. Un autre sujet de Discord, Aya Nakamura. Mais on garde ça pour une prochaine émission. Mais comme elle est dans la playlist d'RFI, bah peut-être qu'on a fait notre choix, nous. J'en dis pas plus.
Mondial Sport.
Le sport à l'école, on en parlait, Karim Baldé, vous vouliez réagir à ce que disait Jean-Paul Khaled sur le fait que du côté des associations, la France est plutôt un pays qui se défend. Du côté du sport à l'école, là, il y aurait des choses à dire. On parlait notamment de l'UNSS, donc ça, c'est la pratique plutôt collège.
Plutôt collège-lycée dans le secondaire, voilà. En tout cas. C'est vrai que l'avantage de la France, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de petits clubs, des clubs de quartier. Donc, pour faire du sport, c'est très facile. En revanche, quand on arrive dans le secondaire, c'est là où le bas baisse un petit peu. Parce qu'il y a des compétitions comme l'UNSS, c'est bien, mais c'est pas assez développé, c'est pas assez reconnu. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, avoir fait des compétitions UNSS en football.
Alors, l'UNSS, c'est on peut pratiquer beaucoup de sports. Hein. C'est pas sport en particulier, mais c'est des profs de sport qui encadrent la pratique de différentes activités, et parfois même des compétitions sur une journée où on fait un peu plusieurs activités, plusieurs sports.
Des compétitions au niveau local, départemental par exemple, et c'est pas vraiment reconnu même dans les établissements. On peut très bien faire une compétition de football UNSS et puis à la fin, personne ne le voit, ni les profs, ni les établissements, personne ne le met en valeur. Et c'est tout le problème. Quand on regarde des pays comme les États-Unis, là, le sport scolaire, notamment au lycée, on voit les équipes universitaires de football américain, de baseball, qui, elles, sont beaucoup plus vues, sont beaucoup plus supportées, sont beaucoup plus admirées également. Et c'est là où finalement, on se dit que le sport au collège lycée, c'est plus une activité de dépenses physiques, mais basta, pas plus.
Alexandre Jaffari, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, l'acteur de terrain, la France, c'est-elle un pays de sport, sauf que ça s'arrête aux portes de l'école ou du collège ou du lycée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
En fait, déjà, je pense qu'il faut différencier EPS et sport. Mmh. Ça, je ne suis pas le plus...
Alors, l'EPS, c'est l'enseignement du sport, bah, là, pour le coup, collège, lycée, sportive, oui. Éducation physique sportive. Mmh. Et c'est quoi ? C'est quelques heures par semaine
C'est ça, je crois que c'est 3 heures au collège et 2 heures au lycée, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, les professeurs d'EPS et les théoriciens d'EPS, donc issus de la filière STAPS, donc sciences techniques et activités physiques et sportives à l'université, ils font bien une différence fondamentale entre ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Karim, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer sur le sport américain, vu que c'est un outil d'exploitation des jeunes. C'est-à-dire qu'on voit qu'à la NCAA, donc le système universitaire où ils vont jouer au basket ou au football américain, c'est des mômes qui touchent 0 $. Là, les propriétaires, eux, ils vont se faire une grosse manne financière en profitant d'eux.
Et depuis... En les recrutant ensuite dans les grandes ligues, c'est ça ?
Ouais, mais ils vont recruter combien ?
Oui.
En NBA, à chaque fois, il y a une draft de 60 personnes. Il y a 436 athlètes, je crois, en NBA environ. Mm. Du coup, tout le reste qui a joué dans toutes les divisions, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, par exemple, en lutte, etc., bah, ils ont fait ça gratos. Et en fait, depuis maintenant, je crois, 5-6 ans, ils ont le droit d'avoir des sponsors. Et c'est leur seul droit de se faire des thunes. Mais le reste, c'est que de l'exploitation. Donc moi, en France, je ne veux pas de ça. Je veux juste que ce soit accessible à tous. Et même, en fait, si à la fin... Même si à la fin, en fait, bah, c'est pas grave, c'est pas mis en valeur, bah, ils ont joué au ballon, ils ont appris des trucs et c'est le principal.
Jean-Paul Khaled, qu'est-ce que vous en pensez de ce complexe du cornflex ? Je crois que c'était ça la chanson de M. Ce fait que, et c'est exprimé, donc j'ai l'impression par beaucoup de sportifs de haut niveau, qu'on regarde avec envie le système américain qui met le sport et la réussite des champions au cœur du système scolaire. En tout cas, vu de loin, c'est comme ça qu'on le voit.
Oui, bien sûr, mais bon, je crois qu'il faut faire attention à ces fausses passerelles qui nous amènent du système français à un exemple ou à une prétention à l'exemplarité à l'étranger. Je crois que en sociologie, parce que je ramène toujours ça un petit peu à ma,
ma discipline de référence. Mais vous faites bien, vous faites très bien.
Je crois que pour répondre à la question du départ de la France est un pays de sport, point d'interrogation, je crois qu'il faut considérer en fait l'écosystème sportif français dans sa totalité, voyez, c'est-à-dire essayer d'en savoir plus sur ce qu'il en est de la démocratisation des pratiques sportives. Et je crois que là, on a quand même une statistique qui est proposé par jadis par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui avait conduit les deux premières grandes enquêtes nationales, et ensuite l'INSEP et l'INJEP ont pris le relais. Et on a une idée assez précise en fait de ce qu'il en est de la population française. À côté de ça, il y a l'autre volet, si je puis dire, c'est celui quel est le modèle français du sport. Il y a bon, une politique publique de l'État, les collectivités territoriales, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais au niveau de l'État, comme le disait Roselyne Bachelot au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, elle disait 43 médailles pour un pays de 60 millions d'habitants, ce n'est pas si mal que ça, vous voyez, parce que... Si on occupe à l'époque un sixième rang au nombre des médailles, on est précédé par assez peu de pays, voyez, et quelquefois par des pays qui ont une population, un réservoir de sportifs infiniment supérieur au nôtre. Et en même temps, pour répondre un petit peu à Teddy Riner et à Laurent Manaudou, quand on regarde ce qu'il en est de l'attractivité reconnue de la France en matière d'organisation de grands événements sportifs. On n'est pas mal placé non plus.
Ah bah oui, on va accueillir les JO, on a accueilli la Coupe du Monde de rugby, on a accueilli l'Euro il n'y a pas si longtemps, on a accueilli des Coupes du Monde de football et j'en passe et des meilleurs. Et je suis loin d'être exhaustif, on a le Tour de France.
Bien sûr, effectivement. C'est ce que j'appelle moi l'écosystème sportif français. Et à ce moment-là, bon, ne pas se limiter quand même à des exemples pris à l'étranger, parce que toutes nos médailles olympiques ne sont pas forcément préparées outre-Atlantique.
On parlera justement des médailles olympiques, parce que forcément, cette question, elle se pose aussi dans un contexte de Jeux olympiques. Mais on va laisser notre question de base, de départ, sur Mondial Sport. La France est-elle un pays de sport et les JO pour évoquer d'autres thèmes, d'autres actualités sportives.
Mondial Sport.
Bonjour Sofia Damasian.
Bonjour Hugo, bonjour messieurs, bonjour à tous.
Il y a du football dans l'actualité sportive ce dimanche, et notamment en Première Ligue avec un choc. Choc pour la couronne d'Angleterre.
Ouais, c'est ça, entre City et Arsenal. Un choc qui fait pchit hein, pour l'instant, Hugo. Ah, 0 à 0.
On a l'habitude, on commence à avoir l'habitude.
Hier, c'est déjà compliqué en termes de buts en Coupe africaine. Là, en Première Ligue, c'est pas mieux. 0-0 entre ces deux belles équipes. Ça vient de reprendre 46e minute de jeu. Arsenal, qui était leader avant cette 30e journée de Première Ligue, bah, pour l'instant, bah, c'est plus Arsenal leader, c'est Liverpool qui a battu Brighton 2-1, un match assez beau, avec un but de l'Égyptien Mohamed Salah, vous le connaissez, c'est une légende des Reds.
Oui, effectivement, et puis dans le reportage que l'on a entendu tout à l'heure, le club de baby-foot à Saint-Ouen, il y en a déjà un qu'on surnomme Mohamed Salah. Donc il y aura toujours un Mohamed Salah à commenter sur RFI. La Ligue 1
ouais,
ah bah oui, là on descend un petit peu en intensité et en niveau.
Il y a quand même plus de buts. Bon, plus de matchs, Hugo, si c'est mathématique. Beaucoup de Nantes sur la pelouse de Nice, victoire 2-1 des hommes d'Antoine Comboré qui vient de faire son retour sur le banc des Canaries. On note le but sur pénalty d'un autre Égyptien, Mostafa Mohamed. Terem Mofi, le Nigérian, a marqué pour Nice. Donc le beaucoup pour Nantes. Brest qui reprend la deuxième place du classement, victoire sur la pelouse de Lorient 1-0. En ce moment, Rennes est en train de perdre sur la pelouse de Strasbourg 2-0. Mais j'imagine que le match que tout le monde attend ce soir, c'est le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, 18h45, temps universel pour suivre cette belle rencontre.
Vous attendez ça, Karim Baldé ? Évidemment. Vous en attendez encore quelque chose du classique ?
Oui, même si c'est un peu perdu de sa saveur quand même, parce qu'il y a un tel déséquilibre entre l'OM et le PSG que on voit mal Marseille gagner comme ce soir.
Mais oui. Allez, le football en Afrique, les Coupes d'Afrique de clubs, on avait la Ligue des Champions qui a fait un petit peu pchit hier, la Coupe de la Confédération, les quarts de finale aller, là encore, et ça fait pchit ou pas?
Alors, il y a eu un but.
Ah ok, c'est une révolution copernicienne à l'échelle de notre week-end.
Exactement, on est sur un seul match sur quatre, victoire de River United, les Nigérians face au tenant du titre, l'USM Alger, 1-0, un beau but. Le buteur, c'est Augustine Okejefa, j'espère ne pas mal dire son nom. C'est un but magnifique en dehors de la surface, frappant en pleine lucarne. Donc option prise avant la manche retour pour les Nigérians. Je vous donne les trois autres matchs. Stade Malien contre Dreams, Abou Salim jouera contre la Renaissance de Berkane, et le dernier match, c'est Futur FC contre le Zamalek.
Allez, avant de vous relâcher, mon cher Sofiane Amazian, vous êtes un captif volontaire consentant. Est-ce que vous avez un petit mot d'athlétisme à nous dire? Je crois que oui, je crois qu'un Africain est passé sous les 10 secondes et c'est une première au niveau international cette saison sur le 100 mètres, bien sûr.
9 secondes 99. Alors la saison d'athlétisme vient à peine de commencer, donc c'est assez facile de battre des records. Donc son nom, c'est Favour Haché, qui est le premier athlète à passer sous les 10 secondes, donc le Nigérian. Il a fait 9 secondes 99, c'était en Floride hier soir. Je vous donne juste son record rapidement, c'est 9 secondes 96 l'année dernière, c'était aussi aux États-Unis. Faudra le surveiller au jeu, ce fameux haché.
On le surveillera, et puis vous pouvez surveiller le site internet de RFI, www.rfi.fr, pour réécouter le Mondial Sport de dimanche dernier, puisqu'on parlait de sprint justement, et de sprint africain. Là, nous, on pose une question importante, essentielle. Ce dimanche 31 mars, la France est-elle un pays de sport ?
Bonsoir à tous, bienvenue donc à Antenne 2. Ai-je besoin de le rappeler, pour les demi-finales de la Coupe du Critérium inter-européen des trophées régionaux?
Voilà, maintenant nous voyons les images. Là, c'est donc l'Américain Robert Johnson. Là, c'est le Zaïrois John Gamaco, si je ne m'abuse. Voilà, à ses côtés, bien évidemment, c'est l'Américain Simpsons qui reste le favori. Et enfin, le Français Raoul Ménard, bien évidemment. Ah, attendez, oui. J'ai des nouvelles sur le 10 000 mètres. Oh là là, Raoul Ménard qui tenait la tête va se faire bientôt dépasser.
Attendez.
Aïe, ça y est, le peloton est à ses talons, hélas.
Hervé, excuse-moi. Oui. Non, attendez, excuse-moi Hervé, oui. Mais Raoul Ménard avait un tour de retard. Voilà. Il entame donc son deuxième tour de retard, je précise.
Ah, bon, d'accord, donc absolument. Rien de dramatique, c'est une bonne nouvelle.
Tout à fait. En tout cas, la course suit son cours et tous les espoirs restent permis pour Raoul.
Extrait d'un des nombreux sketchs, car oui, c'était une parodie des Inconnus, des comiques français qui étaient drôles il y a une trentaine d'années, et je suis pas sûr que leur humour ait si mal vieilli que ça. On les entendait se moquer du sport et surtout de la bêtise, un petit peu la gentille bêtise des journalistes sportifs français. Le sport et sa place dans la société française, justement. Est-ce que la France est un pays où le sport, pas seulement dans les médias, est mal raconté, mal apprécié, voire, certains disent, méprisé, Karim Baldé?
Ah, le pas seulement dans les médias, j'allais venir justement à ce qui se passe dans les médias. Mais non, mais c'est vrai, pour parler de notre secteur d'activité. Alors, sans vouloir trop comparer, mais quand on regarde avec la presse européenne, par exemple, en Angleterre, il y a des quotidiens comme le Guardian, comme le Telegraph, comme le Times, qui sont des quotidiens prestigieux et qui ont, notamment les fins de semaine ou en début de semaine, les lundis, ils ont 10-15 pages consacrées à l'actualité sportive avec des articles de fond, les résultats bien sûr, mais aussi des articles de fond. On le voit également en Espagne avec une profusion de médias sportifs. Alors certes, en Espagne, c'est pas toujours de la qualité, mais il y a beaucoup de quantité, beaucoup de quotidiens sportifs. En France, à l'inverse, ce qu'on constate, c'est dans des quotidiens de référence comme Le Monde, comme Le Figaro, comme Libération, et ben finalement, la place accordée au sport est très faible, parce que dans les rédactions, on considère souvent que le sport est plus que secondaire, parce qu'on considère que le sport, c'est finalement c'est le truc de quartier, ou bien parfois on se dit c'est le truc un peu de bouffe, sans vouloir trop exagérer.
Oui, donc, bouffe, c'est-à-dire médiocre
intellectuellement, un peu de bas étage, par rapport à l'actualité politique, économique, etc. Donc ça fait partie aussi de ce problème qu'on a en France avec la médiatisation du sport, c'est que c'est toujours vu par les médias comme quelque chose d'un peu de bas étage, voilà. Et du coup, c'est moins bien traité que dans d'autres pays européens, malheureusement.
Jean-Paul Khaled, vous qui êtes un ancien sociologue spécialisé dans le sport, est-ce que cette place du sport, on va dire dans l'imaginaire, la place symbolique du sport dans la société française, vous l'avez analysée lorsque vous étiez chercheur ?
Non, enfin, disons pas directement, mais il se trouve que j'appartiens à une union qui est l'Union nationale des clubs universitaires, type PUC, BEC, ASUL à Lyon, et nous avons pendant des années organisé une université sportive d'été, et conjointement avec l'Union des journalistes de sport en France, l'USJF. Et je dois vous dire que j'ai quand même rencontré des grandes plumes du journalisme sportif, qui bien sûr aujourd'hui sont décédés ou largement à la retraite.
Mais il y a une noblesse du journalisme sportif en France.
Ah oui. Si on prend par exemple des personnalités comme Jacques Marchand, on peut considérer quand même qu'ils ont apporté leur lettre de noblesse au journalisme sportif, faisant en sorte que ça soit un journalisme à part entière et non pas un journalisme à part que le sport.
Et dans le monde académique, alors, si on parle de la place du sport, est-ce que le monde académique, donc un peu élitiste et intellectuel presque par définition, est-ce que le sport y est bien traité, y est bien accueilli ?
Disons, notre collègue tout à l'heure parlait des instituts de formation, donc les STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, les lettres de noblesse en sociologie, en sciences sociales appliquées au sport doivent beaucoup à ces UFR STAPS. Certains s'intéressent aux médias sportifs et actuellement, ce sont en fait des thèses qui sont tout à fait reconnues. Alors bien sûr, il y a toujours eu des rigolos qui prenaient le sport en dérision, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut bien se rendre à l'évidence. Le sport, c'est tout de même une sorte de culture majoritaire en France, quelles que soient les formes d'expression, du haut niveau ou l'activité physique et sportive d'entretien, et pour tous et pour toutes.
Alors, quand on parle aussi de la place du sport en France, impossible de pas évoquer la place du sport dans le débat public et dans le débat politique.
Rien n'est acquis pour personne, si j'ose dire. Pour les médaillés d'aujourd'hui, il va falloir vous rebattre pour tenir la performance pour 2024. Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous ou pour ceux qui n'étaient pas encore prêts, il faudra mettre les bouchées doubles parce que ce rendez-vous de 2024, il arrivera une fois dans votre vie. Et vous le savez.
Le président français Emmanuel Macron qui sermonne, on parlait d'enseignants et de professeurs, voire de coachs, les médaillés français des Jeux de Tokyo. C'était à leur retour. Et oui, dès 2021, Macron a annoncé qu'il exigeait des médailles en 2024 à l'occasion des Jeux à la maison. La ministre des Sports, elle, récemment, Amélie Oudéa-Castéra, a parlé d'un top 5 dans le tableau des médailles. On peut être une grande nation de sport, il faut se fixer l'objectif olympique et paralympique de rentrer durablement dans le top 5, a-t-elle déclaré chez nos confrères de RMC. Alexandre Jaffari, je crois que vous exposez régulièrement vos opinions politiques sur X. Vous n'êtes pas un fervent soutien de la majorité actuelle. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette récupération avec Emmanuel Macron en quasi-chef de la délégation et coach en chef de l'équipe de France, ou ce raccord qui est fait entre tableau des médailles et pays de sport?
En fait, c'est toujours l'objectif des dominants de dépolitiser le sport. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, si les auditeurs et les auditrices s'en souviennent, mais pour la Coupe du Monde du Qatar, il avait dit « c'est bon, on n'en parle plus, ouais, c'est fait, le sport n'est pas politique ». Et du coup, là, par rapport, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, en fait, on crée une culture sportive à partir du moment où on intellectualise et on politise le sport. Là, actuellement, pourquoi il n'y a pas d'homosexuels dans le sport? Pourquoi il n'y a pas de personnes transgenres dans le sport? Pourquoi est-ce qu'on va briser, exploiter les personnes racisées dans le sport de haut niveau? C'est parce qu'en fait, on n'intellectualise pas du tout, on voit ça juste comme un spectacle et on ne s'interroge jamais avec ça. Par exemple, sur pas mal de maisons de radio, on va avoir une émission où un économiste est invité tous les matins, où un philosophe va être invité tous les matins, mais il n'y a jamais une émission où un sociologue du sport, un historien du sport va être invité tous les matins, et du coup, on en apprend vachement, et on
exerce... ouvre un petit peu les chakras.
Et... ouais, voilà, et du coup, on dit, ah ok, mais pourquoi tous les arbitres ils se font insulter tous les week-ends? Pourquoi en départemental, ensuite, les arbitres ils se font insulter? Pourquoi les parents ils disent, ah c'est cool, je vais insulter l'arbitre et les joueurs, alors qu'ils ont 5 ans, ils ne savent pas ce qu'ils font, et je vais les insulter? Et tout ça, en fait, il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociologiques, mais tant qu'on ne politisera pas le sport, on ne s'en sortira pas. Or, la gauche, elle s'en fout parce que son penchant, c'est intellectuel. Et du coup, le but, c'est qu'on amène ça, qu'on les fasse réfléchir par rapport à ça. Et la droite, comme Macron l'a fait, elle est là juste, ou Amélie Oudéa-Castéra, elle est là juste pour récupérer les lauriers à la fin.
C'est une thèse qu'elle mérite au moins d'être radicale. Jean-Paul Calette, sur la récupération politique ou sur la politisation du sport en France, quelles sont les choses que vous pouvez nous dire?
Ben disons, pour revenir à l'allocution du président de la République, je pense qu'elle était assez malvenue, hein, de retour de Tokyo. Alors évidemment, Tokyo, ça peut donner l'impression d'être une sorte de contre-performance. 33 médailles et un huitième rang mondial, alors que 4 ans auparavant, à Rio, c'était 42 médailles et un sixième rang. Mais bon, de là à considérer que les athlètes se sont montrés relativement paresseux, vous voyez, à l'occasion de ces Jeux de 2020, à mon avis, dans ce cas-là, l'intervention politique sur le sport me semble caricaturale.
Et voilà, Emmanuel Macron, qui j'espère n'écoute pas RFI ce dimanche, à 16h48, temps universel, rhabillé pour l'hiver, mais lui, ce qu'il veut, c'est des médailles en été. La musique est la dernière ligne droite de Mondial Sport ce dimanche. La France est-elle un pays de sport?
I can't get over you, I can't get over you. I am sexy, very expensive. I am willing to pay the price, spend my money and spend my time. I need sexy, interesting, many fish in the ocean. For me, I want that one, personal. Carry my kill the show, join out with spirit call. Carry my money and go. The one I want, been running away from love for so long. When I met you, I reached my last bus stop. Last bus stop. Oh, I need sexy, interesting, many fish in the ocean. For me, I want that.
Mina, il y a moyen de canter.
Le débat se poursuit pendant la musique de CK. Is it you? La France est-elle un pays de sport? Vaste débat dans Mondial Sport. Alors nos intervenants, Alexandre Jaffari et Karim Baldé, le poursuivent, l'enrichissent hors micro. Ils ont bien raison, on est aussi là pour ça. La France est-elle un pays de sport? Et si paradoxalement, on regardait un petit peu ailleurs? On va d'abord s'oxygéner en Afrique du Sud, où l'on s'adonne au parkrun. C'est quoi les parkrun? Eh bien, depuis 2004, les toutes premières courses des parkrun en Angleterre, ces événements rassemblent chaque samedi des amateurs de jogging, dont plus de 2 000 lieues, et ça se passe dans le monde entier. L'idée, c'est de courir tous ensemble un 5 km. C'est un événement gratuit. Les bénévoles sont là pour l'organisation. Il est ouvert à tous, que ce soit des coureurs, des marcheurs, que vous soyez jeune, vieux, peu importe l'âge, la condition physique. L'Afrique du Sud est particulièrement amatrice de parkrun, avec 200 lieux où sont organisées ces courses. Une participante de luxe hier matin à Johannesburg, notre correspondante Claire Bargelès. 3, 2, 1, enjoy.
Bon, on est samedi matin, il est 8h et je me trouve déjà un peu essoufflée à Delta Park. C'est un parc au nord de la ville de Johannesburg et j'ai rejoint des centaines de personnes qui sont toutes venues là pour courir tous ensemble 5 km comme tous les samedis matins. Il y a pas mal de montées ici, donc les plus rapides sont déjà loin devant, mais voilà, on vient de passer la barre des 2 km, donc ça se profile plutôt pas mal. À mes côtés se trouve Vida, que j'ai rencontré il y a quelques minutes et qui porte fièrement un t-shirt avec écrit en grand 50 pour ses 50 park runs qu'elle a déjà couru.
J'aime me donner des défis afin de rester en forme. Et je suis aussi très compétitive avec moi-même, donc je veux toujours m'améliorer. C'est pour ça que je suis là et j'adore ça.
Moi, c'est James Meekings. J'ai déjà couru plus de 250 parkruns. Je pense que c'est l'esprit de camaraderie et la sensation d'être une grande famille qui nous pousse et on retrouve ça partout. Je suis allé dans plein d'endroits en Afrique du Sud et je me suis fait beaucoup d'amis grâce et au travers des parkruns.
Personne ne peut finir dernier ici. On a un bénévole qui ferme la marche, qui reste à la fin et s'assure que tout le monde termine. Et qui sera toujours enregistré comme dernier, donc personne ne peut finir après lui.
Clive Smart, organisateur de la course pour Delta Park.
Les parkruns ont été introduits en Afrique du Sud par Bruce Fordyce, véritable légende de l'ultramarathon des Comrades. Il a commencé avec une dizaine de coureurs ici, à Delta. C'est le lieu de naissance des courses dans le pays depuis 2011.
Ça y est, on y est. La ligne d'arrivée est en vue, avec des bénévoles qui nous attendent.
Ok, alors d'abord je scanne votre code-barre et ensuite je vais scanner celui-là qui donne la position. Tout est sauvegardé et synchronisé avec le temps de départ. Regardez, moi par exemple, ma première course, je l'ai faite en 54 minutes et maintenant mon record c'est 27 minutes. C'est pour ça qu'on va avoir des chiffres pour pouvoir voir la progression.
Selon les résultats reçus quelques heures plus tard, en 42 minutes, j'ai terminé à la 280e place sur 680 coureurs. Il faudra revenir la semaine prochaine pour espérer faire mieux. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Qui a encore assez de souffle pour signer son reportage en Afrique du Sud, en Afrique tout court, Karim Baldé. Vous avez des origines guinéennes, comoriennes, ce qui vous permet d'avoir un éventail de vision des choses assez large. Est-ce qu'on le trouverait un peu bizarre, ce débat? La France est-elle un pays de sport? Vous ne pouvez pas parler pour tous les Africains, évidemment.
Bien
mais
sûr.
Est-ce que vous le trouverez... Est-ce qu'on le trouverait bizarre?
Décalé,
étrange. Je reviens un peu à ma question d'origine. Le pays qui va accueillir les JO, le pays qui a organisé tellement d'événements, qui a eu tellement de champions, est-ce qu'on se demanderait si c'est un... On trouverait ça sérieux de se demander si c'est un pays de sport?
On ne se poserait pas la question de cette façon-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce n'est pas forcément une priorité compte tenu du niveau de vie dans certains pays. Ça, c'est la première chose. Et puis... Même dans la pratique sportive, quand on parle de la France, c'est un pays quand même, on a parlé des associations, il y a beaucoup quand même d'aides publiques, d'associations, etc. En Afrique, il y a aussi des associations, mais en revanche, l'aide publique n'est pas beaucoup présente justement, et c'est tout le problème. Même un pays comme le Sénégal, par exemple, qui a une grande équipe de football, mais dès qu'on parle des autres sports, tout de suite c'est plus compliqué. Tout de suite, on voit des sportifs qui parfois galèrent, ne serait-ce que pour avoir les moyens suffisants pour aller dans les compétitions, ou bien même des clubs qui ont du mal à subsister. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que le sport se vit plus au quotidien. On le voit en Afrique de l'Est, notamment les marathoniens, les coureurs, etc. On le voit en Afrique de l'Ouest aussi dans d'autres disciplines. Mais la question ne se poserait pas du tout de la même manière, en tout cas.
Vous avez réceptionné cette patate chaude extrêmement brillamment, mon cher Karim Baldé. Question mal posée, mais extrêmement bien répondue. Jean-Paul Khaled, la France doit-elle se comparer à d'autres pays? Et si oui, à quel pays peut-elle vraiment se comparer sur cette question si large du pays de sport? Vous parliez de population, vous êtes sociologue, vous étiez sociologue. Bon, on va pas comparer la France aux États-Unis ou à la Chine qui domine régulièrement le tableau des médailles aux Jeux Olympiques.
Non, bien sûr, mais on a tout de même des repères intéressants en consultant en fait l'Eurobaromètre sport qui est produit par la Commission européenne à intervalles assez réguliers. Et on s'aperçoit en fait dans le dernier Eurobaromètre que la France occupe une place tout à fait honorable, disons, au niveau de la sportivité, disons, des populations.
C'est quoi, c'est la pratique des gens, c'est ça, tout simplement?
La pratique des gens, finalement, en écoutant le témoignage qui vient de nous être donné, ça m'a fait penser en fait à ce que l'on trouve dans les eurobaromètres où on s'aperçoit que la pratique santé, disons pour des sportifs et des sportives du deuxième âge, disons, qui ont renoncé à la compétition, dans des parcs ou dans des cadres de pleine nature, c'est tout de même ce qui arrive en tête, vous voyez. Donc, bien avant, la seule pratique en club, sous une forme compétitive, principalement. Alors, il y a des pays, disons, si nous, on est en fait un petit peu au centre de ce qui peut se faire en matière de pratique sportive, pour le plus grand nombre, évidemment qu'il y a des pays qui nous dépassent, on peut penser au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à l'Allemagne et aux pays nordiques qui ont des taux de pratique comme la Finlande, le Danemark ou la Suède plus importants que le nôtre. Mais c'est vrai qu'eux accordent beaucoup plus d'importance que nous aux activités dans un cadre de pleine nature ou dans un parc, voyez. Et inversement, je dirais qu'on a des pays qui sont moins bien classés, entre guillemets, que la France. Ça serait par exemple l'Espagne, l'Italie, le Portugal étant relativement loin. Mais si on prend par exemple l'Espagne et l'Italie, au début de l'émission, on a bien dit tout de même que c'était des pays qu'on pouvait considérer comme étant sportifs, parce qu'ils organisent des grandes manifestations sportives et en même temps ils ont des résultats au plus haut niveau et pour autant, disons, au niveau de la pratique en population générale, ils sont un petit peu en retrait par rapport à nous.
Donc les Français ne devraient pas rougir, je crois que c'est vraiment la conclusion de cette émission, Alexandre Jaffari. J'ai pas vraiment le temps de vous donner le mot de la fin puisqu'on va bientôt se quitter, simplement recueillir vos impressions. Est-ce que c'est un bon sport la radio? C'était votre première en direct.
Ouais, enfin, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment cool, ça exige et plein de choses en termes de rythme.
Et bien merci à vous d'être venu, une parole de terrain. Merci Karim Baldé,
merci
Jean-Paul Khaled. Demain, Radio Foot sur RFI. Même heure, 16h10, temps universel, tout de suite un nouveau journal.